VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 15 décembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Discours d'investiture du président guinéen Alpha Condé en présence de plusieurs chefs d'État africains. Au Nigeria, Boko Haram a revendiqué l'enlèvement de plus de 500 lycéens à Kankara dans l'État de Katsina. La Somalie a rompu ses relations diplomatiques avec le Kenya qu'elle accuse d'ingérence. Le président élu Joe Biden a appelé les Américains à tourner la page au lendemain du vote du collège électoral en sa faveur. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président guinéen Alpha Condé a exhorté ses concitoyens à se tourner vers un avenir d'unité et d'espérance lors de son discours d'investiture ce mardi en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le point avec Bagassi Koura.
J'exhorte chacun d'entre vous à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance, a lancé Alpha Condé affirmant sa conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens en présence d'un parterre de chefs d'État africains. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence, a-t-il averti, dans une allusion aux violences qui ont endeuillé les manifs organisés depuis plus d'un an contre sa candidature à un troisième mandat. L'opposition et des ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International accuse les forces de sécurité d'être responsables de la mort de dizaines de civils. Pour sa part, le pouvoir met en cause les leaders de l'opposition, dont plusieurs ont été arrêtés depuis le scrutin du 18 octobre.
Au Nigeria, Boko Haram a revendiqué l'enlèvement de plus de 520 lycéens à Kankara, dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du pays. Katsina, état d'origine du président Muhammadu Buhari, était jusque-là relativement épargné par les attaques du groupe djihadiste. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Dans un message vocal, un homme se présentant comme Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram, a assuré que ses frères sont derrière l'enlèvement à Katsina. Le gouverneur de cet état, Aminu Bello Massari, a déclaré que des discussions sont en cours avec les kidnappeurs pour assurer la sécurité des élèves enlevés et leur retour dans leur famille. Pour le gouverneur Bello Massari, 333 adolescents sont portés disparus. Mais dans un autre message vocal publié aujourd'hui, le chef de Boko Haram affirme détenir en captivité 523 enfants. Le président Muhammadu Buhari, lui-même originaire de Katsina, était en visite chez lui au moment de l'enlèvement. Il a ordonné le renforcement de la sécurité dans toutes les écoles. Selon des témoins, plus d'une centaine d'hommes armés à moto ont attaqué l'école. Certains lycéens ont réussi à s'échapper, d'autres ont été rattrapés, séparés en plusieurs groupes et emmenés par les assaillants. En 2014, 276 jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram dans leur internat à Chibok. Beaucoup d'entre elles ne sont jamais revenues.
L'ancien président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz, visé par une enquête sur des soupçons de corruption, a encore refusé de répondre aux questions de la police. Comme lors des précédentes convocations à Nouakchott, il a refusé de répondre aux questions ou de signer quoi que ce soit, a affirmé un de ses avocats, Maître Ould Ichedou. L'ex-président s'attache toujours à l'immunité et que lui accorde la Constitution, a précisé l'avocat. La Somalie a rompu ses relations diplomatiques avec le Kenya qu'elle accuse d'ingérence après des mois de tensions entre les deux pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
La Somalie appelle tous ses diplomates en poste au Kenya à rentrer au pays et à ordonner aux diplomates kenyans en Somalie de quitter le pays d'ici 7 jours, à compter du 15 décembre, a déclaré le ministre somalien de l'Information. Lors d'une conférence de presse, Ousmane Aboukar Doubé a expliqué que le gouvernement fédéral somalien a pris cette décision en réponse aux violations politiques récurrentes et éhontées du Kenya contre la souveraineté de la Somalie. Les relations entre le Kenya et la Somalie, qui partagent 700 km de frontières communes, sont très dégradées depuis de longs mois. Le gouvernement du président Mohamed Abdullahi Mohamed accuse régulièrement les autorités kényanes d'ingérence, sans toutefois préciser ses griefs. La présidence kényane a par le passé indiqué qu'elle refusait de servir de bouc émissaire à des enjeux politiques internes à la Somalie. La décision de Mogadiscio intervient alors que le président kényan Uhuru Kenyatta reçoit depuis lundi à Nairobi Moussa Bihi Abdi, président de la région somalienne autoproclamée indépendante du Somaliland.
Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a renouvelé ses critiques envers l'armée et les services de sécurité, jugeant inacceptable leur poids dans l'économie du pays. Les militaires et les meneurs de la contestation populaire ont conclu un accord l'an dernier pour un transfert progressif du pouvoir aux civils. Monsieur Hamdok s'exprimait lundi soir lors d'une conférence de presse après le retrait du Soudan par Washington de la liste des pays soutenant le terrorisme. L'homme d'affaires russe Evgeny Prigojine, proche du président Vladimir Poutine, a annoncé ce mardi contester devant la justice européenne les sanctions le visant pour son rôle en Libye via la société militaire privée Wagner. Il a déposé son recours la semaine dernière pour demander son exclusion de la liste des sanctions concernant la Libye, a indiqué sa société Concorde. La marine tunisienne a intercepté lundi soir au large de Sfax 93 migrants africains, dont 3 Tunisiens, qui tentaient de rejoindre clandestinement l'Italie, a indiqué ce mardi le ministère de la Défense. Le porte-parole du ministère, le commandant Mohamed Zekri, a indiqué que 37 femmes et 4 enfants se trouvaient à bord.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Collège des grands électeurs a entériné lundi la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre. Prenant acte, le président élu a invité ses concitoyens à tourner la page de l'élection. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Sans surprise, les grands électeurs qui se sont réunis état par état ont confirmé la victoire du candidat démocrate Joe Biden. Il a obtenu les votes de 306 grands électeurs contre 232 pour le président Donald Trump. L'intégrité de nos élections a été préservée. Maintenant, il est temps de tourner la page, de nous rassembler, a déclaré Joe Biden dans la soirée. La victoire de Biden ne sera toutefois officialisée que le 6 janvier par le Congrès. Joe Biden pourra alors prêter serment le 20 janvier et deviendra le 46e président des États-Unis. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a reconnu mardi la victoire du démocrate au lendemain de la confirmation des résultats. Le collège électoral a parlé, dont je voudrais aujourd'hui féliciter le président élu Joe Biden, a dit à l'ouverture des débats, celui qui a été un soutien indéfectible de Donald Trump, qui par contre n'a toujours pas reconnu sa défaite.
Le président russe Vladimir Poutine a félicité Joe Biden et affirmé vouloir collaborer avec lui. Monsieur Poutine a souhaité au président élu le succès et exprimé sa conviction que la Russie et les États-Unis peuvent, malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux problèmes et défis dans le monde, a indiqué le Kremlin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également adressé ses félicitations à Joe Biden. Les enseignants doivent figurer parmi les personnels prioritaires de la vaccination anti-Covid, a réclamé l'UNICEF. Alors que les États-Unis et le Canada ont commencé à vacciner leur population, 3 millions de doses doivent être distribuées d'ici mercredi pour vacciner 20 millions d'Américains avant fin décembre et 100 millions avant fin mars. La Jordanie a donné son feu vert au vaccin, tandis que l'Union européenne s'est donnée jusqu'au 29 décembre pour rendre sa décision. La France est sortie d'un deuxième confinement qui laissera la place à un couvre-feu. Et en Grande-Bretagne, les autorités ont levé provisoirement les restrictions du 23 au 27 décembre. un nombre record de journalistes ont été emprisonnés en 2020, selon le comité de protection des journalistes, accusant des gouvernements de réprimer les médias et d'alimenter la désinformation en temps de pandémie. Selon le rapport annuel du CPJ, 274 journalistes ont été emprisonnés et 26 ont été tués au cours de l'année. La Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Éthiopie figurent parmi les pays emprisonnant le plus de journalistes. En Afghanistan, un vice-gouverneur de la province de Kaboul et son secrétaire ont été tués ce mardi dans l'explosion d'une bombe magnétique fixée à leur voiture, indiquait le ministère de l'Intérieur. Quelques heures plus tard, un autre élu de la province de Gore a été tué dans les mêmes circonstances, selon un responsable local. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Afreximbank, Bank, l'African Export Import Bank, annonce avoir levé 520 millions de dollars destinés à financer l'aide aux pays africains frappés par la pandémie de COVID-19. Selon le Financial Afrique, le prêt a été dirigé par la banque japonaise MUFG, une filiale de Mitsubishi UFG Financial Group. L'opération a été couverte par l'agence gouvernementale japonaise d'assurance du commerce et des investissements. En République démocratique du Congo, au moins 7,5 millions de dollars sont attendus de l'adjudication des bons du Trésor de 3 mois d'échéance. Pour ce mois de décembre 2020, le règlement se fera jeudi 17 décembre 2020, selon une annonce du ministère des Finances. Sur le marché financier intérieur, le gouvernement congolais prévoit de lever 30 millions de dollars. Les aides économiques tant attendues par des millions d'Américains et des petites entreprises pourraient enfin arriver. Des élus républicains et démocrates du Congrès ont présenté lundi une proposition commune et appelé leurs leaders à la faire adopter avant Noël. 908 milliards de dollars pourraient être débloqués. Mais cette offre doit encore faire l'objet d'un compromis entre Nancy Pelosi, chef des démocrates à la Chambre des représentants, et Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat. Une fois cet obstacle franchi, le texte doit être approuvé par le président sortant, Donald Trump.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. Le Miami Heat, battu par les Lakers en finale de la dernière saison du NBA, a perdu son premier match de pré-saison à 8 jours de l'ouverture de la saison 2020-2021 du NBA. Sur leur parquet, les Floridiens ont été battus sèchement 114 à 92 par les New Orleans Pelicans. La franchise de Miami doit encore disputer un match de préparation vendredi à Tampa contre les Toronto Raptors, champions 2019 et vainqueurs des Charlotte Hornets 112 à 109 hier. Le premier match officiel du Heat est prévu le 23 décembre sur le parquet d'Orlando. Dimanche, les deux premiers duels de la saison opposeront les Golden State Warriors aux Brooklyn Nets et les Lakers aux Clippers, qui viennent d'être battus 2 fois par leurs rivaux de Los Angeles lors des matchs de pré-saison. Football, l'international camerounais Christian Bassogog, qui évolue au club chinois de Henan, le Congolais Cédric Bakambu du Beijing Gouin et autres Africains jouant dans la Super League chinoise ne pourront plus toucher un salaire supérieur à 3 millions d'euros par an. La Fédération chinoise de football a annoncé qu'elle va plafonner à 3 millions d'euros annuels les salaires des joueurs étrangers dans les championnats nationaux. Cette règle s'appliquera dès le 1er janvier 2021 à tous les footballeurs étrangers, y compris ceux évoluant déjà en Chine. Les joueurs dont le salaire est supérieur à 3 millions d'euros pourront toutefois signer avec leur club un accord complémentaire pour convenir du mode de paiement de la différence, a indiqué la fédération, ajoutant que les salaires des joueurs chinois seront eux limités à 630 000 euros par an. Le Brésilien Oscar du Shanghai SIPG est le joueur le mieux payé du championnat chinois avec 23,4 millions d'euros annuels, suivi de l'international congolais Cédric Bakambu du Beijing Guan, 19,5 millions d'euros par an. Rugby, l'international sud-africain Afiwe Dianti a été suspendu pour 4 ans après avoir été contrôlé positif à 3 substances interdites en août 2019, a confirmé l'Institut sud-africain de lutte contre le dopage. L'ailier de 26 ans de la franchise des Lions, basé à Johannesburg, a été contrôlé positif lors d'un rassemblement en équipe nationale l'année dernière. Le natif d'East London s'est fait connaître en 2018, engagé en Super Rugby sous le maillot des Lions, attirant l'attention de Rassi Erasmus, alors tout nouveau sélectionneur des Springboks. Il a inscrit 6 essais lors de ses 13 sélections et a été élu révélation de l'année par World Rugby fin 2018. Le Springboks peut faire appel de cette suspension qui le met pour l'instant sur la touche jusqu'en août 2023.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé lundi devant le Congrès un discours sur l'état de la nation en pleine crise politique au sommet de l'État. Pour une réaction, Eddy Issango a joint à Kinshasa le secrétaire adjoint de la coalition Lamuka, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito.
Il va débloquer le pays de quelle manière? Parce qu'avec ce parlement illégitime qui ne représente pas la souveraineté du peuple, il ne va pas travailler pour le peuple. Est-ce que vous pensez qu'on peut tirer d'un parlement illégitime une majorité nouvelle soit-elle qui soit légitime? Nous ne pensons pas. Si CACH et FCC, cette coalition-là, n'a pas réussi, je ne pense pas que l'Union sacrée va réussir. Si Kabila, qu'il avait comme seul interlocuteur, il n'a pas pu s'entendre avec. Je ne pense pas que maintenant, dans l'Union sacrée, il aura une demi-dizaine de crocodiles. Il réussira à discuter et à trouver des compromis pour une coalition qui puisse être capable d'engager les réformes dont le pays a besoin.
Maintenant là, quelle est votre position? Parce qu'il y a quelques personnalités de chez vous, ou même du CACH qui rejoignent les FCC.
Quelles sont les personnalités?
Quand je dis de vous, ça veut dire Lamuka. Vous êtes l'un des 4 leader de Lamuka actuellement, mais il y en a 2 qui joignent l'Union sacrée, pas de moindre aussi. Jean-Pierre Bemba et Katumbi qui disent prêter main forte à l'Union sacrée du président.
Lamuka incarne les aspirations du peuple. Lamuka, c'est le peuple. Nous resterons Lamuka et nous resterons dans Lamuka avec le peuple tout entier pour nous préparer pour les prochaines élections. Mais nous nous battons aussi que nous fassions des réformes institutionnelles avec les autres de manière dans un cadre paritaire, afin qu'on rentre aux élections. Voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est de se mobiliser dans la Mouka pour gagner les prochaines élections. Mais nous pensons que pour que la volonté et les choix du peuple soient respectés, il faut une bonne CENI, il faut une bonne loi électorale, surtout il faut une cour constitutionnelle qui soit neutre et indépendante par laquelle il faudra passer pour que le peuple, pour que la volonté du peuple soit respectée.
Mais que deviendra la Mouka alors, parce que deux de leaders vont dans ce sens. Serez-vous encore ensemble?
Oui, mais nous sommes ensemble. Lamuka, c'est d'abord notre force, c'est le peuple. Mais ceux qui vont aligner ça, qui nous pensons que bon, c'est leur choix, il faut respecter ça. Mais nous n'avons pas la conviction que l'aligner ça incarnera les aspirations du peuple. Nous ne sommes pas convaincus que là où Tshisekedi a échoué, c'est-à-dire que là où il avait la majorité, elle se fait, mais même Tshisekedi va réussir, si dans l'Union sacrée, la majorité sera aussi, elle se fait. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a plus de 100 ou 130 députés qui vont basculer ou qui sont en train de basculer dans cette Union sacrée, et donc la majorité relative sera, elle se fait. Je ne vois pas ce qui aura changé, parce que globalement, ça va être les mêmes députés. Il a échoué avec cette majorité-là, dans le cadre de cette alliance, que sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes députés que dans l'Union sacrée.
Adolphe Mouzito est un cadre de la coalition Lamuka en République démocratique du Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, les droits des prisonniers en détention préventive sont violés quotidiennement, selon un rapport de l'ACAT Tchad, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, rendue publique à N'Djamena après 2 ans d'enquête en milieu pénitentiaire dans le cadre du projet Lutte contre la détention préventive abusive. Le point avec notre correspondant André Kodmadjingar.
En novembre 2018, plus de 78% des personnes en prison étaient en attente de jugement dans les 3 prisons cibles, notamment à Béché, Moundou et N'Djamena, une situation qui viole les textes en vigueur.
Le code procédure pénale dit si une personne est poursuivie pour une infraction, cette personne doit être jugée dans un délai de 6 mois maximum. Pour les crimes, c'est dans un délai de 1 an renouvelable.
Maître Nojutolum Salomon, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, section du Tchad, 2 ans après l'exécution de ce projet, il estime que la situation a nettement évolué, sauf qu'il reste beaucoup à faire en N'Djamena.
D'après nos chiffres, nous avions constaté que le nombre de personnes qui attendaient le jugement a sensiblement baissé. À Béché, ils sont autour de 5%. À Moundou, c'est presque 0%. Mais le gros problème, c'est N'Djamena. N'Djamena compte 2 millions à peu près de population, mais nous n'avons que 7 juges d'instruction. Donc ça fait qu'il y a une certaine lenteur.
Le 6e substitut du procureur de la République de grande instance de N'Djamena, Abdraman Amatatim, évoque plusieurs facteurs pour justifier le nombre pléthorique de la population carcérale.
On est actuellement en période de Covid et le ministre de la Justice, M. Jim Arabi, a donné des orientations à diversité, entre autres la suspension des audiences ordinaires pour éviter qu'il y ait de contamination. Seul le parquet fonctionnait pour éviter qu'il y ait recrudescence de la violence. Et il y a d'autres facteurs également qui entrent en jeu. Il ne faut pas forcément toujours accuser les juges. Il y a des avocats qui jouent au dilatoire, qui demande des reports d'audience, donc c'est un peu partagé.
Le procureur de la République de Moundou, au sud du Tchad, Brahim Ali Kola, évoque quant à lui le manque de fourgonnettes pour extraire les détenus pour les amener à l'audience puisque la maison d'arrêt est située à 17 km de la ville et le dysfonctionnement au niveau de la chambre d'accusation.
La chambre d'accusation qui doit en réalité procéder éventuellement à la mise en accusation de ces personnes qui attendent et aussi la chambre criminelle qui est prise en compte par le nouveau code de procédure pénale. Donc c'est ça qui traîne jusqu'à là. Et ça fait qu'on a plus de gens qui attendent la session que cette chambre criminelle-là pour être située sur leur sort. Mais en ce qui concerne nous, au niveau du parquet d'essence, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes simplement à 45 personnes qui sont détenues préventivement.
Le procureur de la République d'Abéché, Hassan Djamou Sachim, a déclaré à VOA Afrique que les détenus de la maison d'arrêt d'Abéché, province du Wadaï, dans l'est du Tchad, sont en insécurité puisque les agents détachés pour assurer leur sécurité sont en sous-effectif.
Le ministre de la Justice avait pris un arrêté pour renforcer l'effectif sécurité des gendarmes. Malheureusement, il y a une mésentente avec le garde nomade qui sont détachés. Et c'est là même la cause de certaines mutineries. Et nous avons aussi assisté à des séries d'évasions où nous avons mis en mouvement l'action publique contre ces complices. Ils ont été condamnés par le tribunal, mais ça continue.
Contacté plusieurs fois pour avoir la version du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jimé Arabi, n'a pu répondre. André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad sur 93.1 FM.
Depuis l'offensive militaire lancée le 4 novembre dans la région du Tigré par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, 50 000 personnes ont fui les combats et des violences qui ravivent de profondes divisions communautaires. La majorité arrive à Andayet, un village soudanais situé au bord d'une rivière qui sépare les deux pays. Un reportage de Patricia Huon sur le terrain.
Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à apparaître dès l'aube, leurs maigres possessions sur le dos, l'air hagard brûlé par le soleil.
J'ai marché pendant 2 jours. C'était très fatigant, surtout pour mes 8 enfants. Nous avons eu des problèmes sur la route, on m'a volé mon argent. J'ai aussi vu des jeunes hommes être frappés, certains ont été arrêtés.
En un mois, 50 000 Éthiopiens, en grande majorité tigréens, ont fui des combats et des violences qui ravivent de profondes divisions communautaires. Genet Kassai, son fils de 2 ans sur les genoux, raconte comment 3 hommes en uniforme, armés, ont fait irruption chez elle.
Ils ont tué mon mari. Nous prenions un café à la maison quand ils sont arrivés. Ils l'ont emmené et l'ont tué. Il disait qu'il transportait de la nourriture pour les combattants du front de libération du peuple du Tigré.
Parmi les réfugiés, des paysans, des médecins, des étudiants, des ingénieurs, dont la vie a volé en éclats. Beaucoup sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu, explique Jason Rizzo, coordinateur de projet pour Médecins Sans Frontières.
En général, ils sont arrivés fatigués, stressés. Donc il y a le côté santé mentale qui est assez grave. Et avec le temps et avec le fait qu'il semble que le conflit en Éthiopie va continuer, et donc ça avoir un impact sur le côté mental.
À Hamdayet, le centre de réception des réfugiés se situe à l'écart du village, autour d'une grande tente blanche où les nouveaux arrivants font la queue. Tout manque. Nourriture, ombre, abri, couverture pour la nuit. Hadass Gabrou a la soixantaine. Elle dort seule à même le sol, sous un drap tendu entre des morceaux de bois.
Voilà, c'est ici que je passe la nuit. La journée, il fait très chaud. Je tente de trouver un coin d'ombre. J'ai tout perdu. Ici, je n'ai plus de maison. Pas de jerrican pour aller chercher de l'eau. Pas d'huile, de pâte ou de farine pour cuisiner.
Le transport des réfugiés a commencé vers Oumra Kouba, un camp isolé et déjà surpeuplé, situé à 80 km de la frontière. Un signe que la crise humanitaire n'est pas passagère et l'espoir d'un prochain retour s'amenuise. De retour de Hamdayet, Patricia Huron pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la journée internationale des migrants est célébrée ce vendredi 18 décembre. L'occasion pour nous de braquer nos projecteurs sur les 272 millions de migrants officiellement recensés dans le monde. Entre ceux qui fuient des conflits, des persécutions ou encore ceux qui sont partis à la recherche d'une meilleure situation socio-économique, la diversité de la population de migrants s'affirme de plus en plus. Comment éviter une immigration risquée pour des millions d'Africains? Comment garantir le respect des droits des migrants? Quels défis pour les pays d'accueil? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 17 décembre à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Les États-Unis ont commencé lundi à vacciner les travailleurs de la santé à haut risque. Les responsables sanitaires indiquent que c'est une étape importante dans la lutte contre le coronavirus qui a fait plus de 300 000 morts dans le pays. Un reportage de Jeitsu Seme Oni de la VOA. Le récit est de Lionel Gaïma.
C'est un tournant dans la bataille contre le Covid-19. La première série de vaccinations a démarré aux États-Unis. Après avoir été témoin des souffrances et des décès de patients atteints du Covid-19, l'infirmière aux soins intensifs Sandra Lindsay n'a pas hésité à être la première à se faire vacciner.
J'espère que ça marque le début de la fin d'une période douloureuse de notre histoire.
Les vaccins arrivent à un moment critique alors que les États-Unis ont enregistré plus de 300 000 décès liés au Covid-19. La pandémie continue de submerger les hôpitaux et dévaster l'économie du pays. Le vaccin Pfizer-BioNTech, récemment approuvé par l'Agence américaine de médicaments, doit être disséminé dans 636 endroits du pays. Un deuxième vaccin de la firme Moderna doit être approuvé par la FDA au plus tard cette semaine. Pour le secrétaire de la Santé et aux services sociaux, Alex Azar, l'espoir est en vue.
Au moment où nous parlons, les vaccins arrivent sur les sites et dans des camions et des avions appartenant à UPS et FedEx pour amener ces produits vitaux là où les Américains les recevront. L'envoi de vaccins ce week-end représente 2 900 000 doses, soit 2 900 000 personnes.
Au début de la campagne de vaccination de masse, la priorité est accordée à ceux qui sont considérés comme le plus à risque, comme les travailleurs de la santé et les résidents de maisons de retraite. Les vaccins destinés au grand public ne devraient pas être disponibles avant la fin du printemps 2021. Suffisamment de temps pour convaincre les sceptiques, espère T.S. Harvey, professeur de l'Université Vanderbilt.
La seule existence du vaccin ne met pas fin à la pandémie. Vous avez besoin d'une population disposée à accepter le vaccin.
La portée dévastatrice de la pandémie va bien au-delà de la population américaine, d'où la nécessité d'une approche multilatérale pour y mettre fin, déclare le docteur Bill Petrie, spécialiste de maladies infectieuses à l'école de médecine de l'Université de Virginie.
Nous n'allons pas contrôler cela, à moins que tous les pays du monde ne soient vaccinés. Sinon, nous allons avoir des épidémies continues, des problèmes persistants.
Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et l'Arabie Saoudite, ont commencé à vacciner contre le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que plus de 50 vaccins sont en cours d'essai sur l'homme dans le monde. Chaque vaccin, disent les experts, serait les bienvenus dans la course pour mettre fin à cette pandémie.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.